En tout cas, la française est un problème aujourd'hui. Continuez à nous appeler, les amis qui nous écoutaient sur Sud Radio au 0826 300 300. On continue à vous poser cette question hein, à la veille du chassé-croisé. Est-ce que vous allez, à terme, évidemment, pas forcément demain, mais abandonner votre voiture? Clément Barguin, Facebook et Twitter, les votes?
Eh bien, sur Facebook comme sur Twitter, vous êtes d'accord pour dire non à 86%. Vous n'allez pas abandonner votre voiture. Et puis, un commentaire de Jacques qui nous dit, par exemple, dans le sud-ouest, pas de train, pas de bus, ni d'avion. Alors notre voiture, on la garde, et même si c'est un vieux diesel, parce qu'on n'a pas d'argent.
Bon, mais dans un instant, on donnera la parole aussi à Aurore Boyard qui est avec nous sur Sud Radio en direct depuis Toulon. Restez bien avec nous, continuez à réagir sur Facebook et sur Twitter. On se retrouve dans un instant.
Sud Radio, les vraies voix.
Les vraies voix.
Le débat est ouvert.
Et oui, les vraies voix de l'été qui débattent avec José Espinoza qui est avec nous, Philippe David également, Aurore Boyard en direct pour sa part depuis Toulon. Clément Barguin, suis vos commentaires et vos votes sur les réseaux sociaux de Sud Radio, sur Facebook et sur Twitter. D'ailleurs, donc continuez à voter, on refera un point sur les deux sondages. Vous nous appelez au 0826 300 300. Nous sommes avec Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association, et Jean Olivier, directeur de France Nature Environnement en Midi-Pyrénées. Yves Carra, à l'instant, Jean-Olivier disait justement qu'on consommait de moins en moins de voitures françaises, alors, en tout cas fabriquées en France, alors qu'on a toujours tendance à associer quoi, la voiture au miracle industriel français, à la révolution industrielle.
Oui, alors on parle beaucoup de relocalisation hein, en France, on l'espère tous, ça créera des emplois.
Et ça veut dire qu'il a raison malgré tout, dans ce cas-là. Ça veut dire
Alors, je dirais presque que c'est un autre débat, parce que est-ce que la voiture va disparaître parce que les Français vont moins la consommer, ou est-ce que il faut acheter français? Donc, c'est presque un autre débat. Mais peu importe, pourquoi pas, ouvrons le débat. Effectivement, fabriquer des voitures en France et relocaliser de l'industrie en France, on est tous pour. Mais vous savez, il y a des impôts de production. Voilà, on parle de les supprimer d'ailleurs, et tant mieux. Et il faut savoir que fabriquer des petites voitures en France avec ses impôts de production et avec d'autres taxes, c'est pas rentable pour les entreprises. C'est pour ça que ces dernières années, ces 10, 20, 30 dernières années, elles ont délocalisé parce que c'était pas rentable. Donc on fabrique plutôt des modèles un peu plus haut de gamme, où là effectivement c'est plus rentable pour une entreprise qui doit gagner de l'argent, mais plus les petits modèles. Et on achète, il faut jamais l'oublier, majoritairement en France, des petits modèles, des Clio, des choses comme ça. Hein. Faut jamais l'oublier,
vrai.
Ça.
C'est vrai, ce sont des voitures qui...
Pour rebondir peut-être, c'est pour ça que ce qu'on pourrait envisager, c'est plutôt de construire ou de relocaliser et d'amplifier la construction de bus, de train, de tramway. Aujourd'hui, des villes qui veulent augmenter les cadences et qui cherchent du matériel, elles sont bien
en
peine.
On préférerait en fait qu'on relocalise plutôt des moyens de production de transport en commun plutôt que des moyens de production de voitures, si j'ai bien compris.
Exactement, à la fois par rapport à la problématique de l'automobile, et puis j'ai même envie de dire peut-être par rapport à la problématique d'Airbus qui préoccupe beaucoup, se dire que la technologie aujourd'hui, le savoir-faire, l'ingénierie, les emplois d'ouvriers qualifiés, de chaudronniers ou quoi, pour être complètement destinés à développer très massivement le transport en commun, qui est clairement un mode de transport d'avenir.
Aurore Boyard, vous êtes avec nous en direct depuis Toulon, vraie voix régionale, si j'ose dire, dans le Var, avec nous, ma chère Aurore. Est-ce que vous êtes encore adepte de la voiture, ou quand vous partez loin ou en vacances, vous prenez plutôt les transports en commun, ou alors l'avion?
Alors, moi, je prends principalement le train pour voyager loin. J'adore le train en plus. Ouais. Et c'est disons, beaucoup plus pratique pour moi, parce que quand je plaide sur Paris ou même lorsque je me déplace, le TGV, hein, 3h50. Hein, donc, pour le travail, je voyage énormément en train à partir du moment où je me déplace hors de la région PACA. En revanche, dans la région PACA, la voiture reste importante, sauf que quand même, on a d'énormes bouchons pour aller à Marseille, d'énormes bouchons depuis quelques années quand on va à Nice. C'est un vrai problème. Et le souci que l'on a, c'est que les lignes sont pas terribles. Quand je dois plaider à Nice à 8h30, par exemple, j'ai pas de train. Le train, il arrive à 9h, ou alors il y en a un qui arrive très tôt. Donc, on a un vrai souci qui est lié à ça. Et j'en parle souvent quand je prends le train avec les gens. On a un véritable problème qui est lié aussi au fait que les trains, les horaires des trains sont pas forcément adaptés.
Alors
les
même lignes que régionales, c'est l'heure à laquelle vous savez qu'il faut pas prendre votre voiture si vous voulez pas vous lever 2 heures
bien
plus tôt.
Bien sûr, parce que en train finalement on met quoi? On met 1h50 pour faire Toulon-Nice, hein, on va dire très simple sur le basique. Un peu moins. Enfin, on n'a pas de ligne LGV entre Toulon et Nice, mais si on prend la voiture, on a les embouteillages, le stress, après faut la garer, ainsi de suite. Tandis qu'en plus, à Nice, ils ont fait donc un système de transport en commun qui est super. Hein. Voilà, donc on arrive, et même à pied, on va au tribunal à pied. Et il n'y a pas que moi, parce qu'il y a plein de gens, il n'y a pas que les avocats, je veux dire, il y a plein de gens qui se déplacent hein, au niveau régional. Et ça, c'est vrai que souvent, les trains, en plus au niveau régional, pas tellement Nice, mais entre Toulon et Marseille, il y en a un sur deux qui sont annulés, ça pose un véritable problème. Et les gens sont demandeurs, quand même, hein, de ce genre de transport. Mmh. Et il m'arrive aussi parfois même d'aller à mon bureau à vélo. C'est plus rare. Mais ça arrive. Alors, c'est vrai que j'essaye de faire l'effort quand même, d'avoir une, comment dire, une empreinte carbone minimale. Et puis, j'aime bien marcher. Alors, il y a des choses que je fais aussi à pied, mais principalement le train, beaucoup.
Oui.
Et la voiture.
Et la voiture, là où vous êtes obligé. Vous le dites malheureusement, bah, oui. Vous vous sentez presque coupable, en fait, on dirait, d'utiliser la voiture en hors-boyard.
C'est à force d'écumer les tribunaux, on se sent toujours coupable.
Ben voyons.
Non mais Aurore, c'est vrai.
Mais
vous avez
fait,
presque une mauvaise conscience.
Suis... Bah parce que fondamentalement, j'adore la nature.
Oui.
J'ai été élevée, moi, au milieu de, dans la forêt. J'étais entourée de verdure, de nature depuis que je suis petite. Mm-hmm. La ville, bah oui, c'est comme ça. La ville, ça a été après quand j'ai fait mes études. Donc, foncièrement, moi, j'adore les animaux.
Et pour
j'ai
vous?
La chance d'habiter, bah, j'ai la chance d'habiter un endroit. Ouais. Moi, j'ai mon voisin qui a des poules quand même.
Oui, c'est
et ça ne me gêne pas. Je trouve ça génial.
Et pour donc, vous, du coup, la voiture est une menace pour tout cet environnement que vous adorez?
Bah oui, parce que je trouve qu'en plus une voiture, alors quand on passera aux voitures complètement électriques, ça fait pas de bruit, mais bon, ça pollue
oui,
quand même.
C'est ça.
Ah, pourtant, j'adore ma voiture. Attention, j'adore conduire, je fais des kilomètres en voiture, mais je trouve que quand même, si c'était mieux, si on était mieux desservi en train, il m'arrive régulièrement de prendre le train quand je vais plaider à Avignon.
Et ça.
Je pense qu'on pourrait faire l'effort.
Juste avant de redonner la parole à Jean-Olivier, Yves Carra,
oui.
C'est vrai que dans un certain nombre de grandes agglomérations, que ce soit en Île-de-France, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône ou le Var, les bouchons sont devenus absolument impossibles aux heures de pointe pour entrer. Comment on explique cette espèce d'augmentation des bouchons qu'on constate? Enfin, on se levait beaucoup moins tard, beaucoup moins tôt il y a 20 ans pour rentrer dans Marseille ou Paris. C'est quoi? C'est qu'il y a plus de voitures?
Oh, il y a beaucoup de raisons. D'abord, il y a une démographie qui est supérieure à. Voilà, on a progressé de. On parlait de 50 millions de Français, on est plus de 65 ouais. millions maintenant. Donc voilà, il y a de plus en plus de monde. Et puis il y a un paradoxe, c'est que ce soit à Paris, à Bordeaux, à Marseille ou autre, les emplois se créent dans les villes. Alors ne parlons pas de délocalisation, ça se crée dans les villes. Or, on ne peut pas tous habiter dans la ville parce que ça coûte de plus en plus cher. Parce que c'est de plus en plus cher, puis parce qu'on ne peut pas tous y habiter. Il y a une raison de concentration, donc on va habiter un petit peu plus loin. Mais malheureusement, les emplois sont créés dedans, donc il faut revenir dans la ville. Donc ça crée effectivement... Et il n'y a pas forcément les transports en commun qui ont été pensés en même temps que ces villes, comme bon, on parlait de Marseille, il y a Aix-en-Provence, il y a beaucoup de personnes qui habitent de plus en plus à Aix-en-Provence et qui vont travailler à Marseille. Donc voilà, il y a ce flux qui doit de toute façon se faire. Alors avec le télétravail peut-être un petit peu moins parce que ça va se développer. Donc voilà, c'est à Bordeaux, c'est pareil. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues s'installer. On a totalement oublié d'adapter le réseau routier. Donc la voiture, c'est une victime. C'est pas le coupable. Elle est victime de cette désorganisation, je dirais, sociale. On doit tous être au même endroit, au même moment, à peu près, aux mêmes heures. Et on doit habiter loin et aller travailler dans la ville. Donc, franchement, la voiture, c'est une victime et c'est une solution. C'est pas un problème. Parce que si on n'a pas ça, on peut pas créer des emplois et créer une économie. Il faut jamais l'oublier. Et aussi, la voiture rapporte des dizaines et des dizaines de milliards à l'État. Et s'en priver, ça peut poser de gros problèmes. D'ailleurs, on a transformé, enfin, l'État a transformé il y a quelques années la TIPP en TICPE, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, pour penser déjà à l'hydrogène et à l'électrique futur. Et on a bien vu avec le confinement que les transports en commun sont dans un état financier terrible parce que les gens ne les prennent plus. Et ben, il n'y a plus d'argent qui rentre et on ne peut plus investir. Mais... Donc, il ne faut jamais oublier que la voiture, c'est une solution, ce n'est pas un problème.
Jean-Olivier, j'imagine que pour vous, enfin, vous n'êtes pas forcément d'accord sur le fait
pas forcément d'accord.
Que la voiture soit une solution. En revanche, vous êtes directeur de France Nature Environnement en Midi-Pyrénées. Alors, Toulouse, c'est une des rares grandes villes à avoir résisté à la vague verte lors des municipales. En revanche, quand vous voyez ce qui se passe à Paris, où la maire de Paris compte supprimer la moitié des places de parking en quelques années, à Bordeaux, où le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, envisage à terme, à long terme, pas pour tout de suite, mais une interdiction de la voiture dans le centre-ville. Est-ce que vous soutenez ces politiques dans les grandes villes qui veulent vraiment rendre la vie impossible aux automobilistes, quoi, pour qu'ils passent à autre chose ?
Alors Toulouse devra y passer aussi, puisque en fait on a des décisions du Conseil d'État qui enjoint aujourd'hui l'État français à prendre des mesures efficaces pour en fait réduire la pollution atmosphérique, parce que la pollution de l'air aujourd'hui c'est plus de 40 000 morts prématurées en France, c'est la deuxième ou troisième cause de mortalité prématurée, et donc on a une décision récente du 12 juillet dernier qui oblige en fait l'État français et donc par conséquent les grandes villes, dont Toulouse, dont Marseille-Aix, Grenoble ou Lyon, à prendre des mesures drastiques pour arriver à réduire fortement la place de la voiture en ville, puisque la voiture en ville, c'est responsable des émissions notamment de dioxyde d'azote, qui derrière crée des problèmes respiratoires, y compris dans une période qu'on connaît aujourd'hui avec l'épidémie de Covid. Réfléchir à ces aspects-là, c'est quand même très important.
Mais qu'est-ce que vous entendez par mesures drastiques ? C'est quoi ? Ce serait une interdiction ? Pour vous, dans l'idéal, c'est quoi ? C'est une interdiction dans les centres-villes de Toulouse, de Bordeaux, de Marseille ?
C'est clairement, effectivement, renverser la logique et aujourd'hui que ce soit plus la voiture individuelle qui soit en ville. Tout à l'heure, vous disiez c'est pas un problème la voiture individuelle, c'est quand même un véhicule qui est conçu pour 4 ou 5 personnes, qui la plupart du temps est occupé, utilisé par une personne, qui mobilise donc l'espace public bien supérieur à ce qui serait nécessaire. Moi, je fais du vélo. En ville, à Toulouse, par exemple, c'est très facile de faire du vélo. Je suis un sur mon vélo. J'utilise une place bien moindre que les voitures qui, par ailleurs, ont besoin de places de stationnement, donc qui occupent et qui consomment de l'espace public, qui polluent. Et donc, la question, elle est bien de dire que la voiture ne devienne plus qu'un moyen de transport là où il est vraiment nécessaire. Typiquement, dans une ville comme Toulouse, on pourrait avoir uniquement des voitures en autopartage pour certains déplacements. Donc, les voitures dont je disais tout à l'heure, qu'il suffit d'aller les prendre avec une carte magnétique qu'on passe devant le pare-brise et qu'on peut utiliser pour un quart d'heure, une demi-heure si besoin. Oui. Mais ça diminuerait déjà beaucoup le nombre de places de stationnement qui aujourd'hui bouffe.
Et vous feriez comment pour... imaginons par exemple, je conçois bien, vous êtes à Toulouse, vous voulez passer des vacances à Marseille ou alors à Paris, pourquoi pas. Vous pouvez prendre le TGV, y aller facilement. Mais si jamais vous avez votre famille, votre mamie ou votre papy à la campagne dans une autre région de France, comment vous faites pour y aller sans voiture ? C'est pas possible de multiplier les trains comme ça.
Il faut, la proposition que faisait Joseph Pisonoza tout à l'heure me paraît vraiment intéressante. C'est-à-dire ce système qui aujourd'hui s'est mis en place dans les villes parce qu'il y a la masse critique, il y a le nombre de personnes prêtes à utiliser cet autopartage. Aujourd'hui, on pourrait concevoir que dans chaque gare, y compris de petites dessertes, il y a effectivement des véhicules qui puissent être empruntés. Du coup, qu'on fasse l'essentiel du trajet en train ou autre moyen de transport en commun, et que après, pour finir son déplacement, pour aller circuler, se promener, on puisse emprunter un véhicule, mais uniquement aux besoins, très précisément, mais à des tarifs aussi effectivement qui seraient abordables. Donc, de toute façon, il faut une volonté très forte. Mais aujourd'hui, les moyens qui sont mis dans l'entretien de la voirie, l'espace public est consommé par le stationnement automobile.
Pour vous, la voiture coûte trop cher, en plus en santé, en termes d'investissement et prend trop de place en fait, tout simplement. Bon, vous n'avez pas convaincu, hein, Jean-Olivier, vous n'avez pas convaincu notre vraie voix, Philippe David. Non, je sais, je parlais de Philippe David qui voulait justement réagir à vos propos.
La voiture, quelque part, c'est la liberté. J'ai connu l'époque jusqu'à 10 ans, quand j'étais enfant, on n'avait pas de voiture et on partait justement en train couchette, on en parlait tout à l'heure. Et après, qu'est-ce qu'on faisait ? Soit on marchait à pied, en montagne, dans l'Haute Pyrénées, soit alors on était obligé d'aller prendre l'écart, vous voyez, je vais même de leur faire la pub, ils existent encore, l'écart Lavante, ça y est, qui est sert, et on allait un jour à Gavarnie. Mais là, le car, il repart à 19h30, ou à 18h30, et si à 18h15, vous n'avez pas fini votre balade, soit il faut courir, et vous n'avez pas le temps de vous arrêter de boire un coup quand les gamins, j'étais le plus petit, ne marchaient pas assez vite, etc. La voiture, c'est la liberté.
Liberté de choisir
l'heure à laquelle on part, à laquelle on arrive, si on va boire un coup, etc.
Le nombre de jours où vous vous arrêtez dans une région, par exemple, si vous vous baladez en Bourgogne ou ailleurs, ou dans le Limousin.
Exactement, vous êtes tributaire de vous-même.
C'est l'indépendance.
De personne. Et c'est l'indépendance et c'est la liberté. Et moi, j'en peux plus de toutes ces libertés qu'on nous rogne les unes après les autres, parce que je vais vous dire, si on veut vraiment s'en prendre à la pollution, moi je vais m'en prendre à la vraie pollution, qu'on arrête de signer des accords de libre-échange avec la planète entière, avec des ports containers qui polluent comme des millions de bagnoles.
Je pense que Jean-Olivier est d'accord avec vous là-dessus.
Mais voilà,
complètement d'accord sur les traités de libre-échange. Ouais.
Mais qu'on arrête aussi de produire de l'électricité au charbon, c'est ça qui fait du gaz à effet de serre. C'est pas nos manœuvres diesel qui font 4 litres au 100, etc. etc. Prenons-nous-en aux vrais coupables. Je parlais hier des éoliennes. Pour faire 230 tonnes d'acier qui fusionne à 1400 degrés et faire des centaines de tonnes de béton, ça bouffe une énergie pas possible. Prenons-nous-en aux vrais coupables. Pas parce que, désolé, l'automobiliste, c'est le bouc émissaire de tout en France sur la pollution. Il faut arrêter, ça me gonfle.
Et en tout cas, on vous pose cette question. Restez avec nous, Yves Carra qui est avec nous, et Jean-Olivier, également directeur de France Nature Environnement en Midi-Pyrénées. On continue à vous la poser, cette question. Allez-vous abandonner ?
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Le débat, la question qu'on vous pose sur le Facebook et sur le Twitter de Sud Radio. Allez-vous abandonner votre voiture ? On vous pose cette question à la veille du chassé-croisé, le grand chassé-croisé entre les Aoussiens et les Juillotistes. Dans quelques minutes, le verdict final, ce sera avec Clément Barguin sur vos votes sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux de Sud Radio. Nous sommes toujours avec Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association, et Jean-Olivier, directeur de France Nature Environnement en Midi-Pyrénées. Et avec vous aussi, Jean-Pierre, qui nous appelait au 0826 300 300 depuis Bordeaux. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir.
On parlait de Bordeaux à l'instant. En plus, j'espère qu'il ne fait pas trop chaud.
C'est justement pour ça que je vous ai appelé en urgence.
Allez-y.
Pour moi, c'est une urgence rouge. Je voudrais savoir que la personne de France Environnement, je ne sais pas son nom.
Jean-Olivier, directeur de France Nature Environnement en Midi-Pyrénées, voilà, plutôt du côté de Toulouse.
Voilà. Alors, il est très bien, ce monsieur. Il veut qu'on enlève les voitures les véhicules du centre-ville. Il va m'expliquer comment on fait les travaux en centre-ville sans véhicule. Ce qu'il veut, on peut transporter le matériel qui sont pour faire les travaux, dans les tramways,
Je pense qu'il parlait de la voiture
individuelle. On parlait quand même de la voiture individuelle, effectivement. Là, il faut être sérieux quand même sur la considération du sujet.
Jean-Pierre.
Oui, mais c'est pareil. Moi, je travaille avec une voiture individuelle. Je suis conducteur de travaux, maîtrise d'œuvre. Je fais 50 chantiers sur la région bordelaise. Et comment je me promène dans Bordeaux avec mon matériel dans le tramway?
Vous avez un véhicule professionnel. Effectivement, voilà. Les véhicules professionnels font partie des
réponse
véhicules.
De Jean-Olivier.
Dans un système où la voiture, quand on parle de la voiture individuelle, on parle vraiment de la voiture personnelle qu'on utilise pour se déplacer, pour sortir de la
ville. Une personne à la fois. Je vais vous redonner la parole, Jean-Pierre, après. Jean-Olivier, je lui laisse vous répondre et vous allez reprendre la parole juste après, Jean-Pierre.
Oui. Effectivement, dans les prévisions qu'il y a de restriction d'usage de la voiture, il y a les véhicules pour usage professionnel vont pouvoir continuer à circuler, même s'il existe des solutions. Et aujourd'hui, on discute notamment avec des logisticiens qui réfléchissent à acheminer dans le centre de Toulouse, depuis les grandes plateformes qui sont en périphérie, toutes les marchandises aujourd'hui. Il y a beaucoup de circulation en ville, c'est notamment les livraisons des commandes qu'on peut faire sur Internet, avec des camions qui sont aux trois quarts vides. Là, il y a clairement des logiques de rationalisation quand même à avoir. Et puis après, on peut réfléchir à acheminer. Alors là, monsieur, vous avez une activité personnelle, individuelle, professionnelle, mais qui implique que vous ayez votre matériel dans votre voiture, on peut l'entendre, et là, dans ce cas-là, la voiture peut circuler. Mais c'est pas la majorité des véhicules qu'on trouve aujourd'hui en ville, et y compris, c'est pas forcément la majorité des déplacements professionnels qu'on voit en ville. Je revenais sur tous ces fourgonnettes qu'on voit aujourd'hui sillonner les villes pour livrer quelques colis et qui pourraient être acheminés différemment ou de manière plus rationnelle.
Jean-Pierre, vous avez un nouveau maire à Bordeaux, vous faites partie de ces villes. C'était peut-être la plus grosse surprise du soir du second tour des municipales, ces villes qui ont été emportées par la vague verte. Pierre Urmic qui parle de l'interdiction à long terme, il n'a pas dit pour tout de suite, mais de la voiture individuelle, en tout cas dans le centre-ville de Bordeaux. Est-ce que ça vous inquiète ?
C'est pour ça que ça m'a insurgé un petit peu. C'est pour ça que je me suis même arrêté sur le bord de la route. Vous voyez, je rentre.
Heureusement, parce que c'est plus prudent,
oui,
parce que c'est interdit de faire les deux en même temps.
C'est le permis.
Voilà, faites attention.
Mais il y a une bonne avocate pour vous défendre au cas où.
C'est ça. Il l'a dit. Je vais vous redonner les propos exacts de votre maire, en fait, Jean-Pierre. À terme, à long terme, la voiture va disparaître dans le centre-ville de Bordeaux. On ira vers ça. C'est ce qu'il a dit globalement. Il n'a pas parlé d'interdiction tout de suite.
Voilà. Alors moi, écoutez, je suis indépendant, conducteur de travaux. Je fais plusieurs chantiers. Je dois visiter plusieurs chantiers sur la résidence, de résidence, puisqu'on fait des constructions neuves sur Bordeaux. Je me déplace avec un véhicule individuel. C'est pas une matricule, c'est pas une fourgonnette, c'est une 207 normale.
Et c'est professionnel. Ça, c'est autre chose encore.
C'est professionnel, mais puisque c'est un véhicule individuel qui est ayant la possibilité de prendre 5 passagers. Comment je me déplace ? Moi, on va me mettre un policier.
Ce sera peut-être. C'est vrai que c'est une question. Vous êtes peut-être sur un cas limite, comme on dit.
Il n'y a pas que moi, monsieur.
Il
n'y a pas que moi.
Je sais. Alors peut-être que vous faites partie de ces fourgonnettes dont parlait Jean-Olivier. En tout cas,
je n'ai pas de fourgonnette.
Non, de ces véhicules, pardon. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre de nous avoir appelé. Faites attention, hein, surtout, faut jamais, vous avez bien fait de vous arrêter, faut jamais téléphoner au volant. En plus, on se fait tirer le permis tout de suite, c'est rédhibitoire aujourd'hui, donc vous avez bien fait de rester prudent. Merci beaucoup de nous avoir appelé du côté de Bordeaux, Jean-Pierre, voilà. Au 0826 300 300. Passez une belle soirée. J'aimerais laisser le mot de la fin peut-être à Yves Carat, porte-parole de l'Automobile Club Association. On le disait, vous le disiez, les Français, c'est votre opinion, hein, les Français sont toujours attachés à la voiture. Malgré tout, de plus en plus de grandes villes, effectivement, commencent à restreindre de force la place de la voiture. Est-ce que vous pensez que la voiture va quand même, que ça vous plaise ou non, disparaître dans les centres-villes à terme ?
Alors, dans les centres-villes, elle est déjà fortement restreinte, et c'est bien. Si vous allez dans Lyon, vous avez la place de la République entre Bellecour et Thérault, par exemple, c'est depuis des dizaines d'années une rue piétonne, et tout va bien. Donc, dans les hyper-centres-villes, notamment historiques, oui, il n'y a pas de souci. Toujours à Lyon, vous avez Saint-Jean, le Lyon historique, effectivement, il n'y a pas de voiture, donc il n'y a pas de débat, mais ce sont sur des petites zones, parce que votre auditeur le disait, pas de voiture, pas d'économie, pas d'échange économique de l'extérieur dans la ville. Mais vous savez, je voudrais juste, pour terminer justement, en quelques secondes, apporter une réflexion à ceux qui disent l'autosolisme, la personne seule dans la voiture et l'occupation de l'espace public. Ce qui occupe le plus l'espace public, c'est le logement, on est d'accord. Eh bien, si on applique le raisonnement de la voiture de certains au logement, ça voudrait dire que si vous êtes en couple, si vous avez plus d'une chambre chez vous, c'est un scandale. Vous êtes un mauvais Français, vous êtes un gros pollueur. Mais parfois, chez moi, j'ai des gens qui arrivent, j'ai mes enfants qui viennent, j'ai ceci, cela. Donc, j'ai le droit d'avoir un appartement un peu plus grand. Et voilà, si on applique ce même raisonnement, on est totalement dans l'absurdité. Faut arrêter de penser que les personnes, parce que ça les arrange de dire ça, sont toujours tout seuls dans leur voiture. Non, parfois je suis seul, parfois j'ai des personnes. Et chez moi, c'est pareil. Parfois je suis seul, parfois je suis en couple, parfois j'ai des enfants.
Ce sera le mot de la fin. Voilà. Je suis désolé, Jean-Olivier, parce qu'il faut qu'on avance. Bon, c'était une jolie métaphore, on est d'accord quand même. Jean-Olivier, merci beaucoup, Yves Carat, d'être intervenu dans ce débat. Porte-parole de l'Automobile Club Association. Merci beaucoup, Jean-Olivier, aussi directeur de France Nature Environnement. Midi Pyrénées. Le verdict, Clément Barguin, allez-vous abandonner votre voiture ?
Sur Twitter comme sur Facebook, c'est non à 86% en moyenne. Non, nos auditeurs ne vont pas abandonner leur voiture.
Mais il y en a un qui ne va pas abandonner sa mémoire ni sa culture. C'est Philippe David. Tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix, on l'appelle Monsieur Je sais tout, surtout.
Et parfois,
Philippe David.
Parfois, c'est pesant, hein, je vous assure, dans la rédaction de Sud Radio.
Merci du compliment.
C'est un bonheur permanent, en tout cas. Philippe David, votre mot de la semaine.
Le mot de la semaine est un mot composé. Le mot de la semaine est moustique-tigre, puisque cette sale bestiole qui peut transmettre entre autres réjouissances la fièvre jaune, la dengue, Zika ou le chikungunya a désormais colonisé 58 départements métropolitains français, ce qui inquiète les autorités sanitaires qui se battent encore contre le coronavirus. Pour le Larousse, le moustique-tigre est un moustique à rayures blanches originaire d'Asie du Sud-Est, vecteur en particulier du chikungunya. Moustique vient de l'espagnol mosquito, petite mouche, dérivée de mosca, mouche du latin musca, et jusqu'en 1654, moustique était orthographié mousquite. M-O-U-S-Q-U-I-2-T-E, on disait un mousquite. Tandis que tigre vient du latin tigris, venant du grec tigris, ce mot venant du persan. Ainsi donc, une nouvelle race de moustiques vient nous pourrir les étés et même pire la santé, en venant se repaître de notre sang, car il faut le rappeler. Il faut rappeler le modus operandi de ces insectes. Les femelles, et les femelles uniquement, vous enfoncent leur trompe. Ils n'ont pas de dard. Merci Jean-Marie Bordry, c'est vous qui me l'avez appris. Oui. Donc, elles vous enfoncent leur trompe dans le corps et vous pompent jusqu'à plus soif.
Oui, on est d'accord. Je vois l'image, je vois où vous voulez en venir.
En voyant la tête de mes compères des vraies voix, je pense que ce bref rappel de Sciences Naturelles niveau 5e leur a mis en tête une chanson de Patrick Juvet intitulée « Les rêves immoraux ». On attend d'ailleurs une réaction outrée des associations masculinistes pour ces pauvres humains, victimes des attaques répétées de femelles bicolores de moins de 50 ans. En tout cas, voir qu'une si petite bestiole peut transporter autant de maladies, c'est dingue.
Joli, il fallait la chute quand même. Après, est-ce que vous arriveriez à fantasmer avec ce bruit insupportable du moustique là qui vous donne envie de...
Je voulais que je vous montre ce que j'ai pris la nuit dernière.
Non, je veux pas. Je
il
veux
était pas tigre, je pense, mais il m'a pas raté.
Il vous a pas raté.
Pour conclure, rester dans les sciences naturelles, parlons désormais du tigre, un animal originaire d'Asie dont le nom vient du persan, ce qui explique peut-être son regard. Savez-vous, les vraies voix, comment on dit tigre en sanskrit ?
Non, pas du tout.
Personne ?
Non. Allez-y. Non.
Eh ben, ça se dit Viagra. Vous connaissez désormais l'étymologie de la petite boîte que vous tripotez nerveusement dans vos poches quand vous quittez la rédaction de Sud Radio. Tiens, d'ailleurs, dernière question. Est-ce que vous connaissez le point commun entre l'Empire romain et le Viagra?
Non. Encore tout moins.
La conquête de la Gaule.
Il avait besoin de vacances, l'ami Philippe David. Bon, il fallait quand même les faire, tous ces jeux de mots. Donc bravo à vous, mon cher Philippe. En tout cas, vous allez nous manquer.
Oui, vraiment. Mais je serai demain matin à 7h au micro.
Hein. Oui, je sais, mais moi je dormirai. Donc vous allez nous manquer.
Et on pourra d'ailleurs au Renvoyard, en regard de femme avec Michel Vianney vers 8h30.
Exactement, j'allais le dire quand même. Vous allez nous manquer dans les frais.
Moi, je vais me lever moins tôt que toi demain.
C'est ça, on est d'accord. Le grand matin, week-end de l'été. Philippe David, de 7h à 10h. Demain, on est bien d'accord, en tout cas. Avec vous, mon cher Philippe David. Absolument. Et puis on retrouvera un regard de femme à quelle heure?
8h32, 33.
Bon, merci.
C'est précis, hein.
Merci. Demain.
Merci à vous. À
demain, ce oui. Week-end, dernière matinale du week-end. Merci José Espinoza.
Merci à vous.
Cheminot retraité, gilet jaune également. Merci Aurore Boyard. J'entends plus les cigales, mais ça nous aura fait du bien.
Si, si je peux vous dire qu'il va encore faire très chaud demain, parce que nous, on n'a pas besoin d'écouter la météo pour le savoir. Ouais. C'est l'heure à laquelle les cigales arrêtent de chanter. Et elles ont encore chanté à certains moments, alors que la nuit tombait.
Formidable.
Donc, ça veut dire, qu'on en a
ça veut dire qu'il fait chaud quand même. Merci à vous. Les vraies voix de l'été reviennent lundi prochain. Vous retrouverez juste après les informations. Les routes de l'été, c'est avec Vincent Fernio qui vous emmène dans le Vaucluse. Belle soirée à vous.